Votre rendez-vous du dimanche, c'est haute définition. Les étudiants, les enseignants ont-ils assez d'ambition, assez de passion pour valoriser leurs recherches, pour créer des start-up technologiques qui ont du succès? Haute définition reçoit Hervé Lebray de l'EPFL. Il est l'auteur d'un livre qui décrypte le modèle californien de la Silicon Valley.
Haute définition, Manuela Salvi.
La collaboration innovante, l'innovation, c'est un credo du WEF qui se termine aujourd'hui à Davos. Chaque année, le Forum économique distingue des start-up pour la pertinence des innovations ou leur viabilité économique. En 2002, c'est Google qui était primé, une belle intuition. Cette année, deux sociétés sont issues de l'EPFL et pourtant, le succès des start-up, l'Europe, la Suisse patine loin derrière la Silicon Valley. Pourquoi n'y a-t-il pas de Google ou d'Apple en Europe? La réussite est-elle affaire de culture ou d'infrastructure? Les étudiants, les chercheurs ont-ils assez d'ambition? Un livre lance un pavé dans la mare. L'Europe, la Suisse comprend mal l'esprit des start-up. Ce livre, vous l'avez écrit, Hervé Lebray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un fervent défenseur des start-up, des années d'expérience dans le monde de la haute technologie, un passage à Stanford en Californie. Aujourd'hui, vous gérez un fonds de soutien à l'innovation à l'EPFL à Lausanne. Ce livre, dites-vous dans l'introduction, est né sur un coup de colère. Contre quoi, contre qui cette colère?
La colère, c'était une frustration contre peut-être cette infrastructure qui ne comprend pas la culture des start-up, contre ces individus qui sont parfois trop timides et qui ne se lancent pas comme le faisaient mes amis américains.
Beaucoup de résistance, trop de résistance face au monde des start-up?
Beaucoup d'indifférence, beaucoup de méconnaissance. Et la résistance vient plutôt d'une passivité que de quelque chose de très actif.
Mais l'éclatement de la bulle Internet y est peut-être pour quelque chose.
La bulle Internet a fait beaucoup, beaucoup de mal. Alors, il y a toujours des crises dans l'innovation, il y a toujours des cycles, mais cette bulle était tellement excessive qu'en effet, on a l'impression qu'on gagnait de l'argent trop facilement et ça a détruit beaucoup des belles choses qu'il y avait dans ce modèle.
Alors pour vous, le modèle, c'est la Silicon Valley. D'ailleurs, le sous-titre de votre livre, Startup, ce que nous pouvons encore apprendre de la Silicon Valley, le premier chapitre est consacré à Google. On y reviendra, mais est-ce que les étudiants en Suisse, en Europe, les chercheurs, les professeurs ne sont pas assez incités à s'intéresser aux applications commerciales de leurs recherches?
Bon, les chercheurs, ils ont comme première mission de faire de la recherche, donc on ne peut pas leur reprocher de ne pas se lancer dans cette direction. L'incitation, elle est là, mais je crois qu'ils ont d'autres contraintes. Et puis, ils ont vraiment une méconnaissance. Récemment, j'étais avec un chercheur de l'EPFL qui avait un peu un parcours similaire au mien et qui ne connaissait pas le monde des startups. J'étais presque traumatisé. J'étais avec un Américain d'une société de télécommunications, lui-même d'origine coréenne, qui avait fait sa startup. On a commencé à échanger des idées. Et ce collègue m'a dit au bout de 10 minutes, mais c'est fascinant, au fond, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Et c'est là que j'ai senti que cette indifférence, il y avait quand même quelque chose à faire. On doit pouvoir, à mon avis, réveiller cette passion qui est un peu trop éteinte.
Réveiller la passion, réveiller l'ambition, c'est une des clés du succès de la Silicon Valley?
C'est la clé du succès. Je pense que tout est culturel, tout est dans les individus, j'en parle beaucoup. D'abord de la passion. Ensuite, c'est vrai, beaucoup d'ambition, donc beaucoup de travail, beaucoup de chance aussi, hein, il y a beaucoup de paramètres, mais la passion avant tout, il faut être presque obsessionnel pour réussir, et je le dis parfois, comme un artiste, comme un intellectuel, comme un écrivain.
Alors, le premier exemple que vous donnez, l'exemple de deux doctorants, deux artistes, diriez-vous, hein, deux doctorants qui ont créé Google, c'est une technologie universitaire au départ, elle a débouché sur une réussite financière éclatante. Google, c'est un modèle ou une exception, ou la start-up par excellence?
C'est l'exception parce que la création de valeur en 10 ans est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Mais c'est le modèle. Enfin, c'est le modèle aujourd'hui, mais c'était Apple il y a 20 ans. C'est quelque chose qui se renouvelle, mais en effet, c'est un individu qui s'appelle, ou des individus, enfin Steve Jobs il y a 20 ans, Sergey Brin, Larry Page aujourd'hui, et puis d'autres demain, je suis sûr, qui sont des artistes, qui sont des gens qui ont une vision, qui ont envie de réaliser quelque chose, qui ont souvent quelque chose à prouver d'ailleurs. Il y a des fois une fissure dans leur vie, peut-être
besoin
même dans
de
leur
reconnaissance.
Enfance. Besoin de reconnaissance, hein, c'est peut-être un peu facile tout ça, mais Steve Jobs était un enfant qui a été adopté, il était abandonné, il avait peut-être quelque chose à prouver. Larry Ellison aussi, pour Oracle. Et puis, ils ont envie de faire quelque chose, et pour moi, je crois que c'est le moteur intime de ces individus.
Autrement dit, ils ont choisi la prise de risque, et ces deux doctorants qui ont créé Google étaient très ambitieux. Ils ont choisi la prise de risque plutôt que la carrière académique ou la carrière industrielle.
Alors, le mot risque, il est délicat parce qu'on le voit comme en effet un saut dans l'inconnu. Aux États-Unis, il y a une acceptation de ça, peut-être parce que tout le temps, il n'y a pas d'autre solution. C'est un pays où l'incertitude est là en permanence. Mais je crois aussi qu'ils se disent, de toute façon, on va apprendre des choses dans cette expérience, et si on échoue, on aura appris tellement de choses que ce sera de toute façon une expérience réussie, même si le succès financier, commercial n'est pas là. Ça ne peut être qu'une réussite individuelle.
Ambition, passion, c'est deux mots qui reviennent très souvent dans votre discours, Hervé Lebray. Votre credo, on l'a bien compris, hein, ce sont les start-up. Vous dites une solution ou la solution, le seul débouché pour des idées novatrices. La solution pour créer un lien entre le monde académique et l'économie.
Alors si je disais que c'était l'unique solution, on ne me prendrait pas au sérieux, mais je crois que c'est la solution idéale. J'essaie de faire des fois la comparaison avec Hollywood. Quand vous faites une commande pour un film, ça devient rarement un chef-d'œuvre. Si vous êtes embauché par une entreprise, c'est un peu comme une commande, vous devenez l'employé d'un projet. Alors que si vous êtes le fondateur de la start-up, c'est votre projet. Vous êtes l'artiste qui, le Tim Burton au cinéma, qui finalement, contre les producteurs Hollywood, va faire son chef-d'œuvre. Ben, je pense que la start-up, c'est le chef-d'œuvre du fondateur. Il y a cet élément-là. Et parce qu'il y a cette passion, ben, forcément, l'individu, il fait le mieux possible. Il va pas se contenter de faire bien son travail, il va essayer de le faire de manière assez extraordinaire. Et c'est parce qu'il y a cette démarche individuelle qu'il y a quelque chose d'optimiser dans la démarche.
Mais pourquoi sont-ils si rares, ces chefs-d'œuvre en Suisse et en Europe, même si deux sociétés de l'EPFL sont primées cette année au WEF à Davos?
Il faut bien se rendre compte qu'il y a un élément statistique. Il y a une masse critique aux États-Unis. Vous avez 20 000 étudiants à Stanford, 30 000 étudiants à Berkeley, et finalement presque tous pensent start-up. Donc si presque tous pensent start-up et que simplement 1% crée sa start-up et 1% réussit, ben, ça va quand même en faire une ou deux par an.
Mais pourquoi ne pense-t-on pas start-up à l'EPFL ?
On commence à penser start-up à l'EPFL, je crois que ça, et depuis une dizaine d'années, il n'y a pas de souci, mais c'est encore difficile, ça reste quelque chose de relativement marginal. Moi, j'ai fait venir le fondateur de Swissquote, qui est une très belle success story dans la région, et il y avait déjà beaucoup d'étudiants, il y avait une centaine de personnes, mais il y a 6000 étudiants sur le campus. Je crois qu'à Stanford, vous faites venir un Steve Jobs, vous avez 4000 personnes dans la salle. Donc, ce n'est pas encore quelque chose qui attire suffisamment. On y travaille, je pense que ça changera, mais ça va peut-être prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans. Oui. Ce n'est pas encore intégré dans la culture des étudiants.
Vous avez encore du pain sur la planche.
Tant mieux.
Vous avez cité Swissquote, Hervé Lebray, c'est la bourse en ligne, la bourse sur Internet. Jolie réussite de deux étudiants de l'EPFL. Vous dites qu'on n'a pas bien compris l'esprit des startups de la Silicon Valley. Pas tout à fait. Il n'y a pas de Steve Jobs, pas de Bill Gates, mais Logitech aussi. C'est un autre exemple que l'on peut citer.
Il y a de très, très jolies success stories en Europe. Il y a bien sûr Daniel Borel avec Logitech. Des fois, on se plaint de n'avoir que lui, mais Marc Burki et Paolo Buzzi, ils étaient deux fondateurs. D'ailleurs, l'idée d'être deux est souvent importante. Chez Swissquote, c'est vraiment une très jolie histoire. Il y a Bernard Liotto et Denis Père à Paris pour Business Objects. Il y a ARM, qui est un nom qu'on connaît très peu, mais quelqu'un qui s'appelle Robin Saxby, Sir Robin Saxby, puisqu'il a été anobli pour sa réussite dans sa start-up en Angleterre. Il y a de belles histoires, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une dizaine, il y en a une vingtaine peut-être sur toute l'Europe, hein, 300 millions de personnes aux États-Unis, mais il y en a des centaines. Donc on en a, et peut-être qu'on ne les utilise pas assez, en effet. On ne connaît pas assez cet effet un petit peu boule de neige de l'entrepreneur qui a réussi, qui aide les autres. Et comme on n'a pas assez de success stories, ben on n'a pas assez de gens qui peuvent contribuer à aider nos jeunes étudiants.
Et les success stories, vous évoquez Logitech, on a évoqué Swissquote, ne sont pas assez montrés en exemple, au fond, pour susciter tout simplement des vocations.
Sans doute. Et puis, on n'est pas dans une culture de l'argent en Europe. Hein. On n'est pas dans une culture de la réussite individuelle. Il ne faut pas oublier ça. Les Américains se considèrent comme des cow-boys, comme des pionniers. L'individu, l'individualisme, c'est une valeur.
On a évoqué la passion, on a évoqué l'ambition. la clé de la réussite, mais pas la seule. Parce que la Silicon Valley, vous le dites dans votre livre, c'est tout un écosystème où les liens sont très très souples, donc ils favorisent la création d'entreprises et ils favorisent les idées qui peuvent germer.
Exactement, c'est-à-dire que si on avait juste des jeunes artistes, ben ils feraient une œuvre d'art, mais ils construiraient pas de grosses sociétés. Donc il faut des investisseurs, hein, on en parle beaucoup, qui sont pas toujours d'ailleurs très bien acceptés en Europe. Il faut des professionnels, des managers, des gens qui savent gérer des entreprises. Puis il faut des avocats, il faut des chasseurs de têtes, il faut toute une infrastructure. Mais le problème qu'on a peut-être eu en Europe, c'est comme on s'est dit que c'était absolument essentiel de l'avoir, on l'a mis en place, et puis on a oublié la matière première qui est l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il nous manque les entrepreneurs. Donc il faut tout cet écosystème qui fait que la Silicon Valley, c'est 7 millions de personnes et peut-être 800 000 professionnels autour de tout ça. On a ces professionnels, mais on a un petit peu oublié que d'abord, il nous fallait nos champions, en quelque sorte. Quoi. C'est
donc il manque des champions en Suisse et en Europe, mais on revient sur ce lien assez fort, hein, fort et souple à la fois dans cet écosystème, lien fort entre les étudiants, les professeurs et les investisseurs. C'est une des clés de la réussite. Le rôle des professeurs, transmettre non seulement un savoir, mais aussi de la passion.
Ils ont un rôle de mentor. Hein. Quand un professeur a des doctorants, je pense qu'il stimule son imagination, il aide le doctorant à grandir. Et quand il a son rôle de... Mais finalement, cette idée que tu as développée dans ta thèse ou dans ton master, elle est excellente, elle pourrait être commercialisée. Pourquoi pas une start-up ? Eh bien, d'abord, il stimule cette idée et puis ensuite, il met en contact. Hein. Tous ces professeurs à Stanford, peut-être à moindre mesure à Berkeley, sont connectés aux investisseurs, aux avocats, et savent immédiatement faire la relation. Il faut bien comprendre, la Silicon Valley, c'est une région où on parle très vite. Il n'y a pas de protection, de confidentialité excessive des idées. On parle, on n'a pas peur d'échanger des idées. Et ici, on est peut-être un petit peu trop dans une certaine prudence. Donc ces connexions personnelles, elles sont extrêmement riches, extrêmement fluides, extrêmement flexibles.
Pourquoi cette prudence ici ?
Parce que peut-être on n'a pas vu à quel point l'idée d'essayer, ça permettait de réussir. Si quelqu'un se trompe, il est stigmatisé. L'échec donne l'impression que quelqu'un n'est pas bon. L'Europe n'est pas un continent uniforme, mais on sent bien que dans l'éducation européenne, ce qui compte, c'est de savoir, c'est de donner une réponse à quelque chose qu'on a appris, qu'on maîtrise, alors que l'éducation américaine, elle est basée sur l'essai et l'erreur, et on progresse en apprenant.
Mais l'éducation américaine a aussi ses dérives.
Et elle a énormément de faiblesses, absolument, mais on sent bien que les Américains ont confiance en eux. Je crois que c'est un système qui apprend la confiance en soi. Il n'y a pas forcément un contenu d'une grande richesse, mais une confiance incroyable et qui fait du bien. Les 2 ans que j'ai passés là-bas m'ont fait du bien.
Vous avez effectivement passé 2 ans à Stanford. Hervé Lebray, vous lancez un pavé dans la mare avec votre livre. La Suisse, l'Europe, a tout faux, ou presque. Elle n'a rien compris au monde des startups. On a bien compris pourquoi. On n'a pas bien compris. Pourtant, vous gérez un fonds d'aide à l'innovation. Et l'EPFL est très fière des sociétés qui gravitent autour de son campus.
Non, et ça fonctionne pas mal, mais ça pourrait fonctionner mieux. Et puis, je crois qu'on l'a dit au début, il y a une ambition incroyable chez les Américains. J'ai parfois l'impression que les start-upers européens restent modestes. Des fois, ils vont chercher des fonds publics pour se développer, alors qu'il ferait mieux peut-être d'aller chercher des fonds privés qui sont certes plus difficiles à assimiler parce que les investisseurs sont plus difficiles. Mais on doit réussir à faire mieux les choses. Le modèle fonctionne, mais il doit être, à mon avis, plus ambitieux. Une des startups que vous mentionnez, qui est à Davos, a été mentionnée en début d'année comme l'exemple parfait de ce qu'il faut faire. Donc, un magazine américain qui s'appelle Spectrum est allé chercher à Lausanne un exemple de startup qui prend des risques, qui va peut-être se tromper, qui a levé pas loin de 50 millions de dollars, mais qui a parfaitement intégré le modèle de la Silicon Valley et qui fonctionne. Je voudrais que plus de startups suivent ce modèle-là.
Votre livre, tous les étudiants devraient le lire, l'apprendre par cœur.
Moi, je crois, j'aimerais, je ne veux pas tomber dans l'égomania, mais...
Pourquoi pas, un peu d'ambition ?
Exactement. Mais je pense que, pour revenir à ce chercheur tout à l'heure, qui au bout de 10 minutes trouvait passionnant notre échange avec cet Américain sur les startups, je pense que tous les étudiants... pas seulement en sciences et en technologie finalement, parce qu'une start-up c'est juste une ambition personnelle qu'on développe, mais devrait comprendre ce que c'est. Alors le livre est très orienté quand même technologie de l'information et start-up technologique, mais je pense qu'en effet les étudiants devraient comprendre ce monde.
La passion chevillée au corps, votre livre comme livre de chevet, ou mieux un stage en Californie pour se frotter à une autre culture.
Moi, je pense. Je commence à envoyer certains des étudiants dont je finance les projets pendant des fois 2 jours, des fois 2 semaines, des fois un peu plus dans la Silicon Valley, aussi à Boston. Hein, il y a d'autres régions sur la planète. La Silicon Valley est vraiment tout à fait exceptionnelle. Mais il faut aller voir et s'immerger. Hein. C'est pas un voyage touristique. Il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne, rencontrer les gens qui l'ont fait. Et il y a beaucoup d'Européens qui l'ont fait là-bas, qui sont disponibles, qui sont prêts à aider.
Vous commencez votre livre, Hervé Lebret, sur un coup de colère. Vous le terminez sur un coup de pouce à l'ambition.
J'avais même parlé dans l'introduction de Malcolm X, qui s'appelait Malcolm Little. Et Little, ça veut dire petit.
Petit.
Et à la fin, en effet, je mentionne un tout petit livre de Wilhelm Reich qui s'appelle « Écoute, petit homme » et qui dit « Mais lève la tête, petit homme, parce que tu es en train de détruire toi-même, de détruire ta famille, ton environnement par manque d'ambition, par timidité, par peur. La peur, c'est mon coup de colère, je crois que c'était aussi contre moi, finalement. Parce qu'à force d'avoir peur, on ne fait plus rien, on s'arrête. Non, il faut réagir, la vie est une chose vraiment magnifique. Steve Jobs, que je mentionne aussi dans le début de mon chapitre, dit « Restez affamé, restez fou », d'autant plus qu'un jour vous allez mourir. Il faut l'accepter et entre-temps, profiter de la vie.
Hervé Lebret, merci.